Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dmoni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Les manifestations se sont multipliées ces derniers jours face à l'état de dégradation des routes dans le pays. La situation sécuritaire reste préoccupante et la mise en œuvre de l'accord pour la paix peine à avancer. Ces sujets seront abordés au cours de ce forum de la presse. Pour en parler, nous accueillons Yoroso de l'Inter de Bamako, Ibrahim Kouloubalidi, c'est journaliste, et Souleymane Drabo, professeur à l'École supérieure de journalisme des sciences de la communication. Il sera avec nous, mais au téléphone. Je suis Arkia Touré, bienvenue au Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, pour votre présence. Grogne sociale autour de l'état des routes au Mali du nord au sud. Des Maliens se sont mobilisés ces derniers jours pour demander la construction ou la réhabilitation des routes du pays. Monsieur Ibrahim Kouloubali, quelle analyse faites-vous de cette mobilisation?
Merci beaucoup et bonjour à nos auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, le problème de l'état des routes au Mali, moi je pense que c'est un problème qui a toujours existé. Mais de plus en plus, nous avons affaire à une population qui s'informe et qui de plus en plus s'intéresse à la vie publique. Parce qu'autrefois, on pensait que l'état des routes, c'est l'affaire des seuls gouvernements. Donc, les populations ne s'y intéressaient pas. Mais aujourd'hui, les acteurs qui vivent de la route sont tellement nombreux que l'état de la route joue sur leur économie. Et en même temps sur l'économie du pays. Parce que imaginez, les propriétaires de camions, les propriétaires de cars, les propriétaires de petits véhicules, donc les chauffeurs, les apprentis et tous ceux qui vivent du business du transport aujourd'hui sont pénalisés par l'état de la route. Donc c'est ce qui a amené cette grande mobilisation. Les gens ont compris que si l'État ne fait rien, nous sommes en droit de réclamer à l'État de réparer les routes. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, si vous remarquez, partout à travers le pays, il y a ce qu'on appelle les points de péage. Oui. Les gens payent, mais les routes ne sont pas en bon état. Quelquefois, si le président de la République doit se déplacer sur un axe, on vient, on fait, comment dirais-je, des badigeonnages, et puis quand le président passe, c'est fini. Donc on a l'impression qu'ici, on fait les routes soit pour le président ou pour les ministres du gouvernement. Les populations, que dalle. Donc aujourd'hui, il faut que cette situation change. Et puis pour parler de l'axe CAI, c'est-à-dire le phénomène, il fallait prendre compte depuis l'arrêt du train. Parce que sur cette voie-là, habituellement c'était le train. Donc depuis que le train est arrêté, mais maintenant tout le monde voyage par la voiture, toutes les marchandises viennent par les véhicules. Donc ce qui fait qu'il y a un afflux considérable, peut-être même que les normes techniques de la route ne permettent plus de supporter en tout cas le flux de véhicules qui empruntent cette route-là. Et ça dure depuis une vingtaine d'années. Donc logiquement, aujourd'hui, il faut refaire cette route.
Absolument. Monsieur Yoron, par rapport à la mobilisation.
Et merci. Et moi, je pense que c'est un éveil de conscience. Comme Issy l'a dit, les gens sont préoccupés maintenant par leur propre sort. Et la route, on le dit, c'est le premier signe de développement, ça désenclave. Et le Mali est un pays enclavé. Si nous prenons les grandes routes, elles sont toutes dégradées. Ce qui relie au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, en passant par la route qui va Togo et Bénin, toutes ces routes sont aujourd'hui dégradées. Moi, je pense que cet éveil de conscience, c'est un petit rappel, a commencé dans notre zone à Djouila, avec Sirabako et les gens de Beleko et Fana. Parce qu'aujourd'hui, pour arriver à Beleko, il y a une route, vous quittez Fana, Beleko, ça c'est un trajet qui est plus court, mais aujourd'hui, la route est tellement dégradée que les populations sont obligées de faire un détour par Djouila pour aller à Beleko. Donc, il y a 40 km qui s'ajoutent à l'ancien. Donc, ça coûte très cher par rapport au prix des transports. Et si vous prenez la route Sévaré-Gao, cette route qui a été construite depuis dans les années 1980 par les génies militaires, c'était une route qui était en très bon état. Qu'est-ce qui a dégradé cette route? c'est l'arrivée de des forces étrangères, hein, parce que les gros camions qui étaient sur cette voie ont carrément détruit la voie. Et pour arriver à Gao aujourd'hui, les gens sont obligés de passer par deux pays voisins, oui, le Burkina et le Niger. C'est inconcevable dans un pays. Et si nous voulons quand même que l'économie locale marche, vraiment, il faut mettre l'accent sur ces routes. Ce qui est déplorable, le gouvernement actuel, depuis 2013 jusqu'à présent, n'a posé aucune route nationale digne de ce nom. Mais l'existant qui est là, moi, je pense que l'entretien périodique devrait continuer. Mais cela n'a pas continué. Et toutes les routes sont aujourd'hui dégradées. À l'intérieur du pays, ainsi qu'à Bamako, vraiment, c'est très, très difficile de circuler. Et les gens, quand même, ont raison, vraiment, de se faire entendre.
Ok. Issé, au regard de toutes ces situations relatées ici, est-ce que vous pensez que ces manifestations étaient prévisibles?
Bon, prévisibles, mais quand même, il fallait s'attendre à quelque chose. Parce que les gens, on ne peut pas continuer. Je reviens de le dire. Ça, c'est la voie de l'axe Bamako, Kaye, l'axe Bamako, Gao, Tombouctou. Mais à l'intérieur de Bamako, parlons-en. Aujourd'hui, à la descente du troisième pont, pour relier... En tout cas, le goudron qui va à Ségou, qui passe devant le 13e arrondissement et qui continue à Irimadjo. Mais ça veut dire que pour le 3e pont, ça veut dire qu'à ce axe-là, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire. Et ça, c'est une route parmi tant d'autres à Bamako. Ça, c'est à l'intérieur de Bamako. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière le fleuve, tu quittes le boulot à 16h30, 17h, tu prends la route. Mais tu arrives chez toi à 22h.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, moi, je pense que, franchement, c'est un ras-le-bol général. Mais malheureusement, dans nos pays, on politise tout. Même les revendications les plus légitimes, on va des mains politiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, les routes, les Maliens en ont besoin. La route Gao, parlons-en. La route Gao date de quelle année? Le goudron de Gao, c'est une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, cette route, elle n'a jamais été refaite. Et puis, comme on l'a dit, avec le déploiement de l'aménagement, les gros engins qui empruntent la route ont contribué à dégrader l'état de la route, sans oublier, en tout cas, les terroristes et autres occupants illégaux là-bas qui posent des explosifs et trucs. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que l'état de la situation de la route au Mali, les régimes, à défaut de pouvoir initier des actions de développement, si les populations vous poussent à initier... Moi, je pense que ça doit être une bonne voie, ça doit être une bouffée d'oxygène pour le gouvernement. Parce que si vous êtes en panne d'inspiration, si les populations elles-mêmes vous donnent de quoi, en tout cas, réaliser des infrastructures, moi, je pense que c'est une bonne opportunité à saisir. Il ne faut pas qu'on politise tout cela, c'est des réalités concrètes. En saisissant, le gouvernement, au finish, pourra poser des actes.
D'accord. Professeur Drabo.
Oui, bonjour.
Bonjour, professeur. Nous parlons de la dégradation des routes au Mali. Et quelle analyse faites-vous de la mobilisation de ces derniers jours?
Non, en fait, les mobilisations avaient commencé depuis l'année dernière. Vous vous souvenez que la route Bamako-Dakar avait été déjà barrée par les jeunes à Kati et dans un certain nombre de localités. Et à Gao, les manifestations, ça fait des mois qu'elles durent, qu'elles sont déjà commencées. Et moi, je rejoins parfaitement mes prédécesseurs sur l'analyse des facteurs économiques, qui a été faite. Je vais ajouter dessus, peut-être un facteur psychologique, c'est l'exaspération de la population. La route, c'est un élément qui vient se greffer sur un certain nombre de problèmes sécuritaires, économiques, sociaux, et qui aggrave, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez, parce que l'état de la route Bamako-Kaye et la route Sévaré-Gao, cet état est catastrophique, effectivement. Et il y a un élément nationaliste qui vient s'ajouter à ça, parce que les habitants de Gao... Ils ont un peu honte du fait qu'il faille passer par le Burkina et le Niger pour arriver chez eux à partir de Bamako. Donc il y a tous ces éléments, il y a une conjonction de facteurs qui font que ces mouvements se réveillent aujourd'hui. Et il y a aussi un manque de confiance. Honnêtement, il y a un manque de confiance envers les autorités. Sinon, les efforts de communication auraient permis d'éviter ça. Mais Si fondamentalement la population n'a plus confiance dans les promesses de ceux qui les gouvernent, bon, ce genre de fièvre naît et puis grandit, quoi.
D'accord. Michel, ici, il y a Euro qui a parlé de l'entretien prudique des routes. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être prévu par l'État? Ou bien la situation existe aujourd'hui parce que l'État a négligé ses routes?
L'entretien périodique des routes, moi je pense qu'il y a un certain nombre de structures dans notre pays qui sont dédiées à l'entretien des routes. Mm-hmm. Par exemple, aujourd'hui, il y a la Direction nationale des routes, il y a l'AGROUTE qui est là, et puis il y a le CENTRU qui est là, et il y a même une école aujourd'hui de formation au métier de la route dans notre pays. Tout ça piloté par le ministère du Transport. Mais aujourd'hui, on ne peut pas circuler à travers le pays sans avoir des points d'arrêt où on paye un ticket. Aujourd'hui, il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Cet argent-là, ça passe où? Quelle est la destination de cet argent? Ça sert à quoi? Est-ce que cet argent même est normalement récupéré? Parce que souvent, nous qui voyageons beaucoup à l'intérieur du pays, on se demande s'il n'y a pas de tickets parallèles. Parce que certaines fois, quand tu viens, on met le numéro du véhicule sur le ticket, le truc. Mais des fois, non, on te tend un simple ticket, tu continues. Bon, on fait quoi? Et souvent même, il y a des gens qui ne payent même pas. Parce que des gens qui viennent, on les laisse payer parce que passé, il y a trop de problèmes. Aujourd'hui, le devoir de redevabilité et de transparence voudrait qu'on explique aux Maliens, c'est-à-dire à quoi sert l'argent des péages? Quel est le but final? Pourquoi même ça a été initié? Il faut qu'on donne l'information. Et comme ça, ceux qui refusent d'obtempérer vont payer désormais. Et tous ceux qui payent, désormais, verront un œil, en tout cas, vigilant sur cet argent pour que nos routes ne restent pas dans cet état-là. Parce que, franchement, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un accident grave quelque part, par faute de route, pour que ces services-là viennent et puis ils comblent quelques trous et continuent. On ne peut pas rester dans cette situation. C'est inadmissible. Donc, ce qui va se passer à la langue, ce n'est qu'un début. Si jamais on n'expliquait pas aux Maliens à quoi sert cet argent, attendez-vous un jour au refus d'obtempérer de payer, en tout cas, ces tickets-là dans les points de péage.
Ouais, on a déjà vu la situation à Tombouctou où les jeunes ont dû suspendre le paiement des taxes et autres. En tout cas, tout ce qui rentre dans les cadres du transport là-bas sur place.
Vous dites juste un mot sur la route de Tombouctou. Aujourd'hui, moi, je pense que franchement, Tombouctou est une très grande victime. Parce que la route de Tombouctou, depuis que nous, on est petits, on parle de cette route-là. Moi, j'ai eu la chance de voyager sur cette route-là 3 ou 4 fois. On parle de la route Djabira, Piasona, qui avait fait des balises qui permettaient aux gens de s'orienter, d'emprunter une route, tout ça. Mais à part ça, on n'a rien vu de concret concernant, en tout cas, dès que tu quittes Bandiagara, et comment dire, et Ombori, là où on laisse le goudron. Dès que tu quittes, tu laisses le goudron, mais tu es abandonné à toi-même.
À Tombouctou, on parle de l'inexistence de routes.
C'est
donc,
ça.
Les autres,
donc,
on peut parler de dégradation.
À Tombouctou, il
n'y
en a pas. Jusqu'à preuve du contraire, voilà. Pour rentrer à Tombouctou, il faut traverser un bac, le bac.
Carrément.
Et mais Dieu seul sait comment les véhicules ont souvent accès au bac. C'est un problème. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une occasion pour le gouvernement, en tout cas pour cette fois-ci, même s'il faut tout orienter, en tout cas vers les routes, moi je pense que c'est une nécessité. Il faut que les routes deviennent une priorité.
Ouais. Yoro, il y a ici qui se pose la question, où vont les fonds acquis par les différentes structures chargées des routes? Puisque on parle de l'entretien, ça n'existe pas. Qu'en pensez-vous?
Oui, mais tout le monde se demande où est-ce que va l'argent. Nous voyageons beaucoup. Moi, je suis sur l'axe Sebou-Djouila fréquemment pour aller en famille. Même samedi, je suis rentré, je paye. Aller et retour, je paye. Comme il a dit, les tickets qu'on entend ne sont pas sécurisés. Et où va l'argent? Personne ne le sait. Depuis sous ATT jusqu'à maintenant, il est temps quand même de faire un audit par rapport au péage. Personne ne sait où va l'argent. Voilà.
Ok, professeur.
Oui.
Ouais, la question maintenant, à quoi servent les fonds?
Non, c'est vrai qu'il y a la question peut se poser sur l'entretien des routes, qui n'est pas bien fait. À l'évidence, l'État doit un devoir de redevabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'utilisation de ces fonds qui constituent une partie seulement du financement qui doit être consacré à l'entretien des routes. Parce que les spécialistes vous diront qu'il y a vraiment d'autres sources de financement pour l'entretien des routes, surtout des routes neuves. Donc, mais ensuite, d'un autre côté, il y a l'État est interpellé de deux côtés, du côté du financement de l'entretien et du côté de faire respecter la loi sur la charge des camions. Parce que les camions trop lourds aussi abîment les routes. Et il y a un règlement international qui n'a jamais pu être appliqué dans notre pays. Donc l'État est doublement interpellé sur le problème de l'état des routes et de l'entretien des routes.
Oui. Donc Yoro, nous avons vu suite à ces manifestations, des réponses ont été apportées dans quelques endroits, comme à Tombouctou et Gao. Des accords ont été signés. Est-ce la solution, Yoro, s'il vous plaît?
Bon, les accords, vraiment, finalement, tous les pays, on va signer des accords par-ci, par-là. Ah. En tout cas, je pense que ce sont des appels qui ont été entendus. Le gouvernement, quand même, doit faire des efforts pour reconstruire ces routes, pour faire de nouvelles routes. Il est temps, vraiment, que l'économie locale marche. Et l'économie locale ne peut pas marcher tant que ces routes-là ne sont pas en bon état. Je pense aujourd'hui que l'État, qui n'a pas été prévoyant, comme on l'a dit, gouverner, c'est prévoir, rien n'a été prévu parce que tout aujourd'hui par rapport à ce gouvernement, c'est uniquement consacré à l'accord. On a abandonné le développement du pays par rapport à l'accord. On ne parle que de l'accord. Il est temps quand même qu'on s'occupe des autres problèmes. Et les populations des régions du Mali ont montré qu'elles existent.
À travers ces accords, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manque de confiance des populations envers l'État? Parce qu'à chaque fois, nous voyons que les populations exigent un accord signé.
Non, ce manque de confiance existe il y a longtemps. Parce que quand vous regardez un peu, la classe politique malienne est aujourd'hui décriée par tout le monde. Et personne ne sait. Et chaque fois, on signe des accords, on ne sait pas les aboutissants. Et aujourd'hui, quand même, l'État est obligé de faire face à ces problèmes.
Oui, ici.
Okay, moi, je dirais le ministre Drabo l'a souligné aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine méfiance entre les populations et les décideurs. Donc ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est le couronnement d'un système politique de gestion des affaires publiques qui a été mis en place par la classe politique actuelle. Aujourd'hui, elle est décriée. Donc les gens ne font plus confiance. Par rapport aux accords actuels, pour l'instant, on peut accorder un petit crédit à ces accords-là, parce que pour qui voit, qui connaît l'engagement du Premier ministre lui-même qui se déplace, qui est le maître de lui-même, qui se déplace sur le terrain, qui rencontre les gens. Et moi, je pense que c'est en tout cas une première, parce que par le passé, on a vu le ministre, Madame Zenabou, qui avait dit dans un premier temps qu'il n'y avait pas d'argent pour faire la route. Après, qui avait dit que les travaux allaient commencer. Et jusqu'à présent, on attend le début des travaux. Donc, de tels langages, un double langage au sein d'un gouvernement pareil, donc ça ne met personne en confiance. Mais espérons que cette fois-ci, donc, je crois qu'ils ont vu la gravité du problème. Et le fait de couper la route de Kati, et selon les estimations de la rue, hein, on disait que ça fait 2 milliards par jour.
2,5 milliards
par jour. Si ces chiffres-là sont confirmés, ça fait à peu près de 110 milliards par mois que le Mali perd. Moi, je pense que pour un pays qui est dans une situation économique pas très enviable, on ne peut pas se donner le luxe de perdre 75 milliards par mois. Donc moi, je pense que le gouvernement a tout intérêt à y aller le plus rapidement possible. Je crois que même s'il y a eu des accords, on dit que Moussa Diawara a parlé un peu, le Premier ministre Boubou Cissé aussi a parlé, mais ça montre quand même qu'au haut niveau, l'affaire est prise au sérieux. Donc si ces deux autorités-là s'impliquent, ça veut dire que l'affaire est prise au sérieux, on peut les accorder, en tout cas pour le moment, les doutes, en tout cas, de la bonne volonté de leur côté. Donc, franchement, moi, je pense que, comme je le disais au début, à défaut de pouvoir initier des actions de développement, quand les populations vous poussent elles-mêmes à poser des actions, surtout dans le cadre de leurs priorités, moi, je pense qu'un gouvernement intelligent devrait saisir la balle au bon.
D'accord. Professeur.
Oui, les accords illustrent vraiment la gravité du manque de confiance qu'il y a entre les gouvernés et les gouvernants, et surtout les gouvernés de ces régions qui se sentent oubliés du pouvoir central. C'est le fait que les populations demandent un accord, ça signifie qu'elles n'ont vraiment plus confiance du tout. Et je crois que le gouvernement a pris conscience du problème, parce que quand on en juge par la taille de la délégation.
Oui. Professeur, je crois que pour l'instant, on a un petit souci technique. Bon, on va aller ici directement. Il y a d'abord des réactions concernant. Nous savons, bon, le début des travaux de la route Kati Dijeni est déjà entamé, mais déjà on a des réactions qui affirment que ce n'était pas celle entendue par les populations, parce qu'on assiste seulement au remplissage des nids de poules et puis bitumage. Donc la population s'attendait plus à une reconstruction totale de cette route.
Bon, pour le moment, moi, je crois que, il faut comprendre les choses. Nous ne sommes pas des techniciens à la matière, mais nous sommes en période hivernale, ça c'est un. De deux, l'accord a été fait sous pression. Or, techniquement, moi, c'est que pour l'étude d'abord même de faisabilité d'une route, ça prend des années. Et les travaux même prennent des années, alors qu'il y a une urgence. Qu'est-ce qu'il faut ? Peut-être... Il faut en tout cas refaire les lignes de poules, remettre un peu le goudron en état pour permettre le trafic. Parce qu'aujourd'hui, c'est des centaines de véhicules qui sont garés au bord de la route. Donc, il faut remettre la route en état en attendant, en tout cas, la reconstruction totale d'une nouvelle route. Cela ne peut pas se faire tout de suite. Il faut que les populations comprennent cela. Nous ne sommes pas des techniciens, mais aujourd'hui, si le gouvernement veut refaire totalement, carrément une nouvelle route, ça veut dire que c'est l'arrêt total du trafic sur la voie. Donc il faut que la population aussi soit un peu indulgente, qu'elle comprenne cela pour le moment, pour que le transport continue. Il faut réparer les endroits qui sont en mauvais état, en attendant que les études de faisabilité d'une nouvelle route soient faites, que les budgets soient mobilisés et que les travaux commencent. Donc sinon, tout de suite, sans être un technicien, avec un peu d'intelligence, on comprend que ça, ce n'est pas possible.
Ok, pour clôturer cette étape. Professeur, vous pouvez poursuivre dans votre lancée.
Oui, c'est pour la réflexion des routes. Il faut rappeler que le directeur des routes avait bien expliqué le schéma d'opération. Il avait dit qu'on allait refaire le revêtement en mettant une couche superficielle et... sur 150 km, donc de Kati à Dijeni, et par la suite, ils allaient revenir pour placer un revêtement beaucoup plus épais sur la route. Donc, je pense que pour l'instant, l'entreprise qui est chargée de réparer la route suit les explications qui avaient été données depuis le début. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant, en tout cas.
Ok, nous allons suivre une pause, on revient tout à l'heure.
Vous écoutez les programmes de Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Sécurité et paix, c'est le second thème de ce forum de la presse. Monsieur So, quelle analyse faites-vous actuellement de la situation sécuritaire du pays?
La situation sécuritaire actuelle du pays est déplorable. On a l'impression que le gouvernement ne fait pas des efforts, même s'ils disent qu'il y a des efforts ont été consentis. Mais chaque jour, c'est des morts, que ce soit du côté des civils ou des militaires. Moi, je pense qu'il est temps, avec la présence de tous ces forces qui sont là, et il est temps quand même que le Mali s'engage vraiment à sécuriser sa population.
D'accord. Monsieur ici.
Effectivement, la situation sécuritaire aujourd'hui dans le pays est catastrophique. C'est une situation vraiment déplorable qui n'a que trop duré. Et chaque jour, nous sommes dans une comptabilité macabre. Et ce n'est pas de gaieté de cœur. Donc, soit c'est les villages qui sont attaqués, soit c'est des véhicules qui sortent sur les mines, des forains qui sont braqués. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation, personne ne peut se réjouir d'une telle situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudra, avec beaucoup de discernement, comprendre cette situation. Aujourd'hui, l'insécurité dans notre pays n'est le fait de personne. C'est le fait d'abord des gens qui ont essayé de mettre en mal notre pays. Aujourd'hui, pourquoi parle-t-on d'insécurité? C'est parce que depuis 2012, sous couvert de revendications, en tout cas territoriales, des groupes organisés ont introduit sur notre territoire un melting pot des gens composés de toutes sortes, en tout cas de malfrats, excusez-moi l'expression, des djihadistes, des terroristes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, ajoutés, en tout cas, aux soi-disant revendications, velléités, comment dire, indépendantistes, autonomistes. Donc aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cette situation. Et ces gens-là, quand ils s'installent dans un pays, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut les déboulonner. Sans oublier le fait que, après l'attaque de Kona, quand l'armée française est intervenue pour chasser les djihadistes, on a interdit à l'armée malienne d'entrer à Kidal. Donc cette zone constitue un no man's land pour le gouvernement malien qui n'a aucun contrôle sur cette zone. Et Dieu seul sait qu'elle est vaste. Donc aujourd'hui, bien vrai qu'il y a eu un accord qui a été signé, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les signataires même de l'accord qui le disent. Il y a des signataires qui jouent un double jeu. Tout le monde n'est pas franc dans ce jeu-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui aggrave la situation, sans compter que des bandits hors la loi ont infiltré. Donc, uniquement pour des raisons économiques, ils font des pillages, ils font des braquages. Donc aujourd'hui, qui sont les vrais acteurs de la sécurité dans notre pays? On accuse l'armée, on accuse les forces de sécurité à tort ou à raison. Aujourd'hui, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Absolument.
Voilà, donc ces forces-là, quel est leur état d'équipement? Il y a des scandales, on va de scandale en scandale. Est-ce que ça, c'est la faute des militaires? C'est la faute des décideurs. Soit qu'ils surfacturent des choses qu'on doit payer pour eux, soit qu'ils vont payer des épaves pour eux. Donc aujourd'hui, oui, vraiment, les militaires, je pense que les militaires eux-mêmes sont d'abord les premières victimes parce que c'est eux qui meurent sur le terrain.
Oui. Professeur, la situation sécuritaire du pays qui ne s'améliore pas alors que des actions sont entreprises, toujours.
Oui, la situation sécuritaire, elle est globalement mauvaise. Elle est vraiment mauvaise. Mais quand vous examinez le territoire, elle diffère selon les régions. Parce que depuis 2013 et l'intervention de française, l'insécurité a vraiment changé de nature. Elle s'est même complexifiée par l'apparition de nouveaux acteurs, par exemple les milices dans le centre du Mali, l'éclatement des mouvements, des groupes armés dans le nord. Donc aujourd'hui, on a affaire à une réalité vraiment complexe qui diffère selon les régions et selon les intervenants. Bon, tout ce que les observateurs peuvent vous dire aujourd'hui, c'est que la sécurité, ça ne s'arrête pas à l'équation militaire. C'est beaucoup plus large, mais effectivement, la base des efforts de développement qui doivent accompagner l'action militaire, la base de ces efforts de développement, c'est bien le rétablissement de la sécurité. Et pour l'instant, on n'y arrive pas, malgré que l'armée malienne ait déployé près de 1600 hommes dans le centre du Mali, malgré que Barkhane ait installé une base à Gossi, malgré l'arrivée de la MINUSMA dans le centre du Mali, on n'arrive pas à arrêter cette insécurité. Je pense que c'est pour ça que les décideurs ont décidé de se réunir à Ouagadougou pour voir est-ce qu'il y a une alternative à tout ce qui a été entrepris jusqu'à présent pour qu'on trouve une solution de sortie de l'insécurité.
Oui, ici, la gestion sécuritaire, c'est à plusieurs niveaux, comme le professeur vient de le dire. On a vu aussi qu'il y a un haut représentant du président de la République qui a été nommé. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a des résultats?
Oui, il y a des résultats. On avance tout doucement. Hein. On avance tout doucement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une situation qui peut se régler du jour au lendemain. Mais les gens ont besoin d'actes forts. Les gens ont besoin de sentir le gouvernement faire quelque chose. Les gens ont besoin d'avoir une volonté politique affichée de la part des autorités. Sinon, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour faire avancer les choses. Le haut représentant du chef de l'État, lui, son rôle, c'est beaucoup plus, en tout cas, la gestion des groupes armés, le signataire de l'accord. Mm-hmm. Donc, c'est pour un peu, en tout cas, faire la coordination, en tout cas, entre ces mouvements, le signataire de l'accord, et puis le président de la République, pour lui rendre compte. Donc, moi, je pense qu'il joue bien son rôle. Mais son rôle, peut-être que les gens font une confusion, lui, son rôle, ce n'est pas carrément de mettre fin à l'insécurité. Lui, son problème, c'est l'application de l'accord, être en contact permanent avec les signataires de l'accord pour voir dans quel cadre l'accord peut évoluer.
Donc, il intervient évidemment au centre.
Oui, il intervient au centre sur la question de sécurité. Je crois que son profil le permet aussi donc de comprendre un peu ces zones-là pour avoir déjà séjourné, dirigé un projet au nord du Mali. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la situation du pays.
Monsieur Sow.
Comme il s'est dit, donc le travail, le résultat ne peut pas être senti tout de suite, mais je crois qu'en sourdine, ils sont en train de travailler. Et par rapport à toujours à l'insécurité, mm-hmm. moi je pense qu'il est temps que les Maliens se parlent. C'est nous, toutes les catégories de Maliens et toutes les ethnies, je suis parmi un groupe ethnique où pratiquement nos parents ont tout perdu. Même cette année, j'ai décidé d'envoyer mes enfants chez un cousin. L'insécurité, ils ne sont pas partis. Et le bétail, ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accéder à leurs champs parce qu'il y a des gens qui sont regroupés en groupe de bandits pour piller les gens sur les routes du champ ou pour aller dans les foires. Donc aujourd'hui, quand même, il faut qu'on lance un appel. Ça doit être le travail du représentant du président de la République pour la région de Mopti, parce que je n'aime pas parler du centre, pour la région de Mopti, quand même, de faire appel à tout le monde pour que les gens puissent discuter et qu'on laisse les gens travailler. Sinon, aujourd'hui, si cette situation perdure, la famine va se créer davantage dans la région du Mopti parce que les gens n'iront pas travailler dans les champs.
Professeur.
Oui, ce qui me gêne un peu, c'est que la feuille de route du haut représentant du président de la République dans la région de Mopti ou bien au centre, elle n'a pas été publiée ni diffusée pour qu'on voit quelles sont effectivement ses attributions par rapport aux autres institutions qui interviennent dans le centre. Bon, c'est le côté un peu gênant de ce dossier-là pour l'instant. Mais ce qu'on remarque dans le centre et dans le nord, c'est que plus l'État s'affaiblit, plus la violence gagne du terrain. Et plus il y a des gens qui adhèrent à des activités délictueuses, si vous voulez. Parce que sans l'autorité de l'État, bon, chacun est tenté d'assurer sa propre sécurité, de devenir un bandit pour dévaliser des gens, de régler des comptes au niveau de la communauté. Donc plus l'État s'affaiblit, plus le tissu là va se déliter. Donc la priorité pour l'État, c'est vraiment de revenir dans toutes ces régions qu'il a délaissées, surtout le centre du, je pense surtout au centre du Mali, où les écoles n'ouvrent pas, où il n'y a pas de justice, où il y a peu de services de santé. Il est urgent pour l'État de revenir dans ces zones-là pour que la sécurité revienne, s'installe peu à peu.
Ouais. Toujours en matière de sécurité, ici, on assiste, disons, cette semaine à des manifestations dans la région du Mopti, notamment à Badjangara et Koro, où les populations dénoncent le désarmement de la milice d'Anna Massagou. Pourquoi, selon vous?
Vous savez, moi particulièrement, depuis le cas de la Libye, moi, je ne suis pas du tout partant pour les milices. Parce qu'une milice, quand elle s'installe, elle se croit les prérogatives régaliennes d'un État normal. Donc, en ce moment, elle récupère les impôts, les taxes. Et dès qu'elle rentre dans ses activités économiques et financières, ça devient dangereux. Donc, aujourd'hui, l'autodéfense dans des situations où l'État n'existe pas, je suis d'accord. Mais du moment que l'État affiche sa volonté de pouvoir résoudre la situation, persister, en tout cas, en tant que structure milice, moi, je pense qu'il y a d'autres visées. C'est là où il faut faire extrêmement attention. Parce qu'il y a des hommes politiques qui sont prêts à tout. Qui sont prêts à tout pour rester avec les populations pour pouvoir gagner les prochaines élections. Donc, il y a des manipulations. Aujourd'hui, si après la dissolution de la milice, si l'État n'avait entrepris aucune action pour sécuriser les populations de la zone, on pouvait dire qu'ils ont raison de remettre en place leurs trucs. Mais aujourd'hui, ce que moi je comprends, c'est une défiance vis-à-vis de l'État. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans la région de Mopti? Moi, je pense que après les tournées du Premier ministre, accompagné par des ressortissants de Mopti pendant combien de jours? Donc moi, je pense qu'après tout ça, qu'il y avait une compréhension, que les mentalités avaient évolué. Mais j'ai été vraiment surpris, parce que quand tu attends leur slogan, donc ils insultent le ministre, ils insultent le Premier ministre, ils insultent ceci, cela. Moi, je pense que c'est beaucoup plus politique que sécuritaire. Parce que rien qu'à entendre le discours, parce que j'ai bien suivi le discours lu par celui qui avait le représentant. Donc, à analyser ça, on comprend préalablement c'est politique. Mais sur le plan sécuritaire, je suis de cœur avec les gens de Mopti, parce qu'ils sont victimes. S'ils ont une manière de s'organiser pour se défendre, là, je suis d'accord. Mais aller défier un État, quand bien même qu'il y a eu des volontés, parce que s'ils n'étaient pas d'accord, il fallait le dire lors de la tournée du Premier ministre à Mopti.
Oui, Monsieur Sou, oui, par rapport toujours à la question des milices, bon, il faut aussi préciser que pour la population, la sécurité n'est pas assurée à leur niveau. Donc c'est ce qu'elle dénonce.
Si la population était sortie pour demander le retour de l'administration dans leur zone, je pense qu'ils allaient être soutenus par tout le monde.
D'accord.
Mais par rapport aux milices, comme il se l'a dit, personne ne peut encourager une milice, la création d'une milice. Une milice, c'est des règlements de comptes, c'est ce que nous assistons. Donc il est temps qu'ils demandent le retour de l'État, de l'administration et des forces de l'ordre pour les sécuriser. Mais quant aux milices, ça veut dire qu'il y a d'autres intérêts.
Oui, professeur Drabo.
Oui, c'est le réflexe d'autodéfense là, est un réflexe naturel dans les situations de danger. Mm-hmm. Mais le principe des milices, surtout des milices communautaires, c'est un principe très dangereux. C'est des groupes privés qui s'arrogent le droit d'utiliser une violence légitime comme un État. Et si on prend le simple exemple du Mali, on voit tous les groupes armés du nord du Mali, le MNLA, le HCIA, ont commencé comme ça, sous le prétexte de défendre les droits d'une communauté. Ils se sont organisés, se sont armés, et on voit aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est cet engrenage qui est en train de s'enclencher dans la région de Mopti, si on n'y prend pas garde. Et donc, franchement, le combat contre les milices, je pense que c'est un combat légitime.
D'accord. Monsieur Issé, l'accord de paix, parlons-en. Un an du mandat de Ibeka, du second mandat de Ibeka. Quelle analyse faites-vous du bilan, de la mise en œuvre de l'accord de paix?
Le bilan, c'est difficile de faire un bilan de l'accord de paix. Parce que pourquoi? Parce que l'accord d'abord, ceux qui sont en charge de gérer l'accord, même s'ils font des réunions d'évaluation, il n'y a pas de communication là-dessus. Donc il est difficile pour le citoyen lambda de connaître les avancées, en tout cas dans le domaine des accords. Si à chaque réunion des structures en charge de la mise de l'accord, s'il y avait des publications, s'il y avait de la communication par rapport aux avancées, peut-être que le peuple, en tout cas, allait comprendre mieux l'accord. L'accord pêche par un certain nombre de choses. Ça, c'est le problème de communication. D'abord, l'accord en lui-même combien de Maliens comprennent?
Faut-il renégocier? C'est donc la question qui fait un peu le tour actuellement.
Faut-il renégocier? Moi, je pense que cette question ne mérite même pas d'être posée.
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'en posant cette question, ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. Le piège est beaucoup plus dans les questions que dans les réponses. Quand on dit un accord, c'est une négociation. C'est ça. Parler même d'accord, c'est parler de négociation. Donc, ça veut dire que pour le moment, l'accord où on signait était à cet état-là, mais dans son application évolutive, il y a des changements et des modifications. Et raison pour laquelle on appelle l'accord. Sinon, si ce n'était pas ça, peut-être ça allait être une déclaration finale, mais du moment que ça s'appelle accord, ça veut dire qu'il y a un changement évolutif au fur et à mesure que l'accord s'applique. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent comprendre cela, qu'un accord, c'est des principes pour se mettre en tout cas d'accord sur quelque chose et qu'au fur et à mesure, on apporte les amendements et les changements pour atteindre l'objectif final. Parce que l'objectif final, ce n'est pas de signer un accord. L'objectif final, c'est de ramener la paix au Mali. Donc pour ramener la paix au Mali, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Qu'est-ce qu'il y a à ajouter? Donc c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on pourra obtenir des résultats. Parce qu'au moment où on signait l'accord, et aujourd'hui, 4 ans, il y a beaucoup d'autres réalités qui se sont greffées, qui se sont créées sur le terrain, qui ne sont pas prises en compte dans par l'accord. Parce que dans l'accord, il n'y avait pas la région de Mopti. Ce qui se passe aujourd'hui à Mopti n'est pas pris en compte par l'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut régler le problème de paix à Kidal seulement et laisser le centre qui est devenu plus grave et plus pernicieux que le nord. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les signataires de l'accord s'accordent à l'accord comme si c'était la Bible ou le Coran.
D'accord.
Moi, je pense vraiment...
Monsieur Sow, rapidement, concernant, excusez-moi, on est un peu dans
le... Voilà. Par rapport à l'accord, je suis de ceux qui l'ont rejeté. Que ce soit une renégociation ou pas, je dis que l'accord, cet accord ne fera pas le bonheur du Mali. Cet accord uniquement a été signé pour une minorité qui est en train de qui se joue dedans. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, que ce soit les régions de Kidal, Menaka, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a même pas de développement. Tous ces gens sont là et leurs enfants sont là dans les écoles, les meilleures écoles ou en Europe. Donc ils sont là uniquement pour ça. L'accord là, on ne peut pas avancer avec cet accord. Il est temps qu'on s'assume.
Professeur Drabo, concernant la mise en œuvre de l'accord de paix, le prochain CSA est prévu... Si est quand même prévu à Kidal à partir du 15 septembre. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée?
Oui, si le CSA se réunit à Kidal, c'est une avancée. Parce que le problème de cet accord-là, c'est le temps. Parce que le temps joue contre l'accord. L'accord est plein de défauts que l'on connaissait ou bien que l'on devinait dès le départ. Et qui sont accentués avec le temps. Mais plus le temps passe, ces défauts ressortent et s'aggravent même. Il y a un de nos prédécesseurs qui a cité le problème du centre du Mali qui n'existait pas au moment où l'accord était signé. Mais même dans les points qui sont prévus par l'accord, comme le DDR par exemple, au fur et à mesure qu'on est entré dans le DDR, on voit qu'il y a beaucoup de points faibles. Il y avait des points faibles sur les grades des ex-combattants qui rentraient dans l'armée. Il y a même un problème sur le nombre de personnes qui devront bénéficier du DDR. Il y a un chiffre qui est supérieur à 60 000. Quand on compare la situation du Mali à des pays comme la Colombie et le FARC, on voit que c'est un nombre qui est gonflé artificiellement. Donc il y a beaucoup de problèmes au niveau de cet accord-là. Mais faire la réunion du CSA à Kidal, ça dit déjà la volonté politique des différents acteurs de faire avancer le dossier au moins sur le point de Kidal, qui aujourd'hui, c'est un point qui enfièvre l'opinion.
Voilà, c'est la fin de ce forum de presse. Aujourd'hui, nous avons eu Yoro Sow de l'Inter de Bamako, Ibrahim Kouloubalidi, IC journaliste, et Souleyman Drabo, professeur de l'École supérieure de journalisme des sciences de la communication. Il était au téléphone avec nous. Je suis Arkia Touré. La mise en onde était assurée par Gagny Kanté. À la régie vidéo, Mamadou Keïta, coordination assurée par Mohamedou Touré. Merci de nous avoir suivis.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri,
Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.